Voix Nue. Cette semaine, Caroline Brouet rencontre Thierry Marx. Ce soir, en Côte d'Ichine, tradition et innovation. Bonsoir Thierry Marx.
Bonsoir.
Alors pour ce troisième temps des Voix Nues que nous faisons ensemble, et c'est encore une fois un immense plaisir que de converser avec vous, j'aimerais qu'on parle de votre passion, parce que je pense qu'on peut dire que c'est une passion, autant vous avez une passion pour la cuisine, autant vous avez une passion pour le Japon. La façon aussi dont la culture asiatique, et en particulier japonaise, imprègne à la fois toute votre vie et votre cuisine. Et j'ai intitulé cette troisième émission avec vous « On Kotichin ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que signifie ce « On Kotichin » qui peut donner l'ensemble, le fil directeur de ce troisième temps ?
Oui, c'est vrai que c'est une passion pour le Japon, sans jamais idéaliser cette société, mais le « On Kotichin », ça me paraissait intéressant à une période de ma vie où on pourrait traduire ça comme « étudie d'abord le passé » avant d'entrevoir l'innovation ou avant d'entrevoir l'avenir. Et je trouve ça très juste. C'est une société au Japon qui a une forme d'homogénéité comme ça et qui ne met pas de conflit entre tradition et innovation. Or que nous, occidentaux, et notamment français, on va d'abord chercher à démolir l'innovation ou l'idée même de l'innovation en disant non, c'est la tradition qui a raison. Or que la tradition ne veut rien dire. Montesquieu disait déjà la tradition est la mère de l'ignorance. Et donc, dans cette société japonaise, On Kotichin, c'est ça. Étudie d'abord le passé, comprends pourquoi tes aînés ont fait ça comme ça à leur époque, et vois ce que tu peux faire, toi, pour faire évoluer les choses dans l'intérêt général. Et l'innovation, pour moi, c'est ça. C'est d'abord l'intérêt général et de ne pas mettre de conflit, parce qu'il n'y a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation. Et ce On Kotichin, c'est ça.
Alors le Japon, rentré dans votre vie finalement un peu par hasard, dans les années 70, pas par hasard en fait, plutôt sur un malentendu. Parce que vous êtes allé voir un film au cinéma, ouais. Pensant voir de la culture chinoise, et il se trouve que c'était un film japonais. Vous nous racontez ?
Oui, bien sûr. La mode c'était Bruce Lee quand j'étais jeune adolescent, et il fallait absolument aller voir les films de Kung Fu et devenir un champion de Kung Fu. Et je passe dans Paris, j'adorais aller dans Paris, il y avait un cinéma d'art et d'essai à Saint-Michel, je crois, comme ça, c'était pas cher du tout. Et je rentre et je vois des idéogrammes comme ça sur l'affiche et des gens qui avaient plutôt l'air chinois. Et je rentre en me disant que ça va être un film de kung-fu que mes copains ont pas vu, vu qu'ils viennent jamais dans ce quartier-là. Et manque de peau dans coup de chance, je tombe sur la trilogie samouraï d'Onegaki. Et
Hiroshi Nagaki,
coloré, magnifique, en trois temps, un film de trois heures, où là, c'est plutôt l'histoire, je comprends rien, absolument rien, je ne fais que de lire les images, je comprends absolument rien, mais je comprends que c'est un mauvais garçon, finalement, un samouraï sans foi ni loi, qu'un moine va transformer, métamorphoser, en devenant... un érudit, et ensuite cet érudit qui a quand même ses gènes du samouraï va partir comme Mushashugusha, comme on dit, samouraï errant qui va aller apprendre dans les autres écoles de sabre jusqu'à créer sa propre école de sabre, et c'est la vie de Miyamoto Musashi. Et je ne vais avoir de cesse que de voir ce film et revoir ce film et revoir ce film, y compris une fois de le voir à l'envers d'ailleurs, parce que il avait été mal monté au cinéma, et puis de me dire le Japon. Donc je veux faire un sport qui correspond au Japon. Il se trouve que le judo, je pratiquais déjà un petit peu, mais là, je trouve encore une double raison de pratiquer, parce que c'était vraiment un art martial. J'avais pas les moyens d'aller dans les clubs de karaté, aïkido, qui étaient quand même des clubs assez élitistes et chers, et pas des clubs référencés par une fédération à l'époque. Donc, je vais rester dans le judo, qui va m'amener à cette culture japonaise. Et ça va être quelque chose, pour moi, qui va entrer dans ma vie très tôt, et qui va m'amener, quand je vais arriver au Japon, de me dire, oui, c'est là. C'est cette culture-là qui me convient. Je dis pas qu'elle convient à tout le monde, mais en tout cas, l'idée de ce pays, l'homogénéité de ce peuple, la qualité de l'architecture, le respect de la nature, ce phénomène de se prendre en charge et d'accepter qui on est. Je me souviens d'une phrase de Miyamoto Musashi dans le Traité des Cinq Roues, il disait « Il faut croire en Bouddha, mais pas compter sur lui ». Et je trouve que ça correspond bien au Japon.
Parce que le traité des cinq roues en question, hein, Thierry Marx, c'est un classique des arts martiaux. Donc en plus, oui. Vous l'avez lu à ce moment-là?
Je l'ai pas
vous
lu
avez
du tout.
Vu, revu le,
non, parce que
la trilogie du samouraï, mais pas ce livre-là
mais non,
encore.
Non, parce que je suis arrivé beaucoup trop tard. Et quand j'ai lu vraiment dans le détail le traité des cinq roues, le Gorin no Sho, comme on dit, eh bien, c'est à l'époque où je m'intéressais beaucoup au management humain et de ce que je pouvais retirer de ce livre de management que peut être le Gorin no Sho et qui d'ailleurs se démentit pas vraiment, hein, la force physique, construire son patrimoine physique pour aussi construire son patrimoine intellectuel et de faire un avec qui on est et de savoir qui on est, ça fait partie du Gorin no Sho, ce qui permet de prendre des décisions des fois en termes d'entreprise qui sont intéressantes. Mais je l'ai lu beaucoup plus tard. Mais cette vie de Musashi, peut-être que d'autres se sont intéressés à des gens comme Bruce Lee ou des grands cow-boys de Far West qui faisaient le cinéma de l'époque. Moi, mon modèle, c'était Musashi. Donc, il fallait être le samouraï ultime.
Vous êtes mis au sabre, alors?
Oui, au kendo, plus tard, et puis...
Vous avez même écrit un traité sur le sabre.
Oui, j'ai écrit un traité sur les lames qui servent à faire le sabre. D'ailleurs, je collectionne un petit peu les armures et les lames. Mais c'est vrai que j'ai un peu écrit là-dessus. Mais c'est vrai que ça a construit une philosophie de travail.
La méditation aussi?
Oui, bah oui, j'ai découvert.
Elle est venue plus tard, la méditation.
Non, la méditation est venue beaucoup plus tard, sans savoir que je faisais déjà de la méditation. Vous savez, la prière, c'est une forme de méditation. Le besoin de silence, c'est une forme de méditation. Et j'ai découvert la méditation sérieusement au Japon, au Mont Koyasan, où j'ai commencé à rentrer dans l'apprentissage de la méditation sans faire quelque chose d'excentrique. Or que j'en ne parlais jamais de méditation en France pour pas tomber dans le cliché du baba cool qui était allé dans un ashram, mais j'ai découvert la méditation au Mont Koyasan en me laissant faire, en me laissant expliquer ce que pouvait être cette relation à la nature et surtout de cette capacité à mettre du temps entre ses émotions et ses actions. Et ça, la méditation, c'est un outil extrêmement bienveillant pour ceux qui s'y adonnent de temps en temps. Ne pas se laisser enfermer dans des clichés d'excentricité ou de quoi que ce soit, ça peut être très progressif, mais c'est surtout très bénéfique.
Est-ce que Thierry Marx, mettre du temps entre vos émotions et vos actions, ça sert aussi au cuisinier que vous êtes ? En cuisine, est-ce que ça sert, ça?
Oui, bien sûr. D'abord, ce qui sert le plus quand vous êtes cuisinier, c'est l'observation de la nature. Ce que vous donne la nature. Ensuite, donner du confort de dégustation à un produit, sans jamais lui ôter son goût originel. Ça, c'est important. Et puis, le cuisinier, son devoir, c'est de donner de la mémoire à de l'éphémère. C'est très compliqué. Donc, il faut vraiment créer un certain nombre de choses, il y a une forme de spiritualité dans la cuisine. Qu'on le veuille ou non, certains vous diront le contraire, mais une cuisine qui évolue, des cuisines d'auteur. Moi, quand je regardais la cuisine d'Alain Chapelle, je me disais, mais il y a une spiritualité dans cette cuisine. Quand j'étudiais la cuisine au Japon, dans le kaiseki japonais, je me voyais bien.
C'est la grande cuisine gastronomique japonaise.
Je voyais bien qu'il y avait une spiritualité de ne pas abîmer ce que la nature nous donnait, etc., etc. Donc, il y a une forme de spiritualité parce que, effectivement, la cuisine, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Donc, il faut vraiment respecter le produit et en même temps, il y a un lien de confiance qui se crée entre le convive et le cuisinier. Parce qu'on pourrait empoisonner quelqu'un en faisant la cuisine. Donc là, il n'y a pas cette notion, il y a une espèce de confiance totale, de lâcher prise quand vous faites de la cuisine. J'entends de la cuisine, petite quantité pour un minimum de gens un peu initiés à découvrir une cuisine, un style de cuisine. Et c'est ce qui m'anime beaucoup et ce qui me passionne encore dans la cuisine. Parce que, au-delà d'en avoir fait mon métier, aujourd'hui, je pourrais même plus appeler ça mon métier. C'est une raison de vivre, une raison d'être. Ça me plaît, comme d'ouvrir un livre, comme d'écrire, de dessiner. La cuisine m'anime toujours d'autant d'émotions et d'autant de joie. C'est vraiment quelque chose qui est fort. Mais ça, je le tiens du Japon. C'est complètement vrai. Et en même temps, les bases de la cuisine japonaise, comme les bases de la cuisine française, sont basées sur la rigueur. Et ça, la rigueur, l'engagement vis-à-vis du produit et la saisonnalité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et ça rentre encore dans l'animation intellectuelle. Ma cuisine, aujourd'hui, est basée là-dessus, sans m'interdire l'innovation.
Mais est-ce que ces deux cuisines qui, finalement, qui vont bien ensemble? Je vous pose cette question, Thierry Marx, parce que je me souviens de l'écrivaine Ryoko Sekiguchi, parlant de la différence ou des similitudes entre cuisine française et cuisine japonaise, et disant, par exemple, que la cuisine japonaise, c'est une cuisine qui fait l'éloge de la soustraction, qui est dans l'épure. Oui. Alors que finalement, la cuisine française, c'est presque l'inverse. On rajoute. Oui. Traditionnellement, hein, après les choses changent, bien sûr. Mais... Et donc, on a l'impression que ça part dans deux sens complètement différents, voire opposés.
Et la raison, et elle a tort. On pourrait considérer la cuisine française à une époque comme cela aussi, d'avoir choisi l'épure. Parce que quand vous prenez les années 70-75, ou quand 8 ou 10 grands chefs partent en Asie, notamment au Japon, ils découvrent la cuisine japonaise et ce besoin d'épure. Mais Escoffier en parlait déjà. Donc, non, c'est un souci de l'épure.
Le roi des cuisines.
Mais il y a une vraie similitude entre la cuisine française et la cuisine japonaise, sauf que dans la cuisine japonaise, il y a la spiritualité liée à la nature. Or que nous, on l'a enfermé dans autre chose, qui était un embourgeoisement de la cuisine, qui faisait partie de notre culture en général, de dire il faut des produits exceptionnellement nobles, et puis de les transformer, de leur donner de l'apparat. Or que en cuisine kaiseki, c'est pas donner de l'apparat, c'est d'essayer de donner de la mémoire et de l'éphémère, donc trois gestes, trois ingrédients grand maximum, un bouillon exceptionnel qui vous sert de base. Mais il y a une vraie similitude entre la cuisine japonaise et la cuisine française. C'est, en tout cas, c'est l'amour de la cuisine, je crois, qui est comparable. C'est-à-dire que les Japonais... D'ailleurs, quand on prend toutes les cuisines japonaises, il y a effectivement la cuisine de l'épure qui est le kaiseki, mais vous avez des cuisines d'izakaya, de petits bistrots, en gros, japonais, qui sont très très similaires, avec du porc frit, avec des œufs extrêmement classiques, dans des sauces assez tenues, qu'on trouve aussi au Japon. Donc,
vous vous souvenez d'un repas, peut-être de kaiseki, ou peu importe finalement, mais d'un repas qui vous a procuré des émotions inouïes pour vous, que vous ne connaissiez pas au Japon? Vous vous souvenez de ça?
Très souvent, oui. À Kyoto, un monsieur extraordinaire, Takaushi Diyote, qui était formidable, qui m'a fait toute une démonstration, 9 plats autour de la dorade et de l'œuf.
D'accord.
Tout ça à base de bouillon, et c'était un moment d'exception parce que sa cuisine, c'était la 17e génération de cuisine dans une même famille, et je crois que la cuisine dans laquelle il pratiquait n'avait pas changé. Donc un couteau, 3 casseroles, et ça c'était assez étonnant. Et puis Miyamaso, Miyano, où il y a l'équipe de cuisine qui est équivalente à l'équipe des cueilleurs. Donc il y a des cueilleurs qui partent en forêt, qui ramènent des produits, et à 9h du matin, vous savez à peu près ce que vous allez faire en cuisine. Et c'est une cuisine exceptionnelle. Ce que j'ai écrit d'ailleurs dans la stratégie de la libellule, ce que je remarque de la cuisine japonaise, pourquoi, et ce qu'on devrait garder aussi dans la cuisine française, qu'on a hélas un peu trop oublié, c'est qu'est-ce que c'est que de la cuisine? Pour donner de la mémoire à de l'éphémère, dans la cuisine, il faut maîtriser quoi? Le geste, coupe juste, goût juste, le feu, la cuisson, et le temps, la saisonnalité et le temps pour faire. Et bien avec ça, vous faites quelque chose qui va donner de l'émotion, forcément. Mais en face, il faut un public. Il faut un public qu'on accompagne. Je me souviens de cette phrase du 19e qu'on disait, l'homme se nourrit, seul l'homme d'esprit sait manger. Donc aussi, il faut participer à l'éducation des gens qui vont venir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je travaille, j'essaie qu'on me voit ou qu'on voit nos équipes travailler pour voir la main qui nous nourrit. Parce que comme ça, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de dissimulation.
Vous disiez tout à l'heure que... il fallait surtout ne pas dénaturer ou ne pas chercher à dénaturer le goût originel d'un produit. Et pourtant, et là j'aimerais que vous nous expliquiez, il me semble que c'est un peu contradictoire avec l'idée de cuisine qu'on a appelée moléculaire, que vous préférez avec Ferran Adrià appeler techno-émotionnelle, on retrouve l'émotion hein, bien sûr, mais... Pour moi, la cuisine moléculaire, justement, elle va chercher à transformer complètement le goût originel avec l'introduction de la technique et de la chimie. Mais peut-être
c'est
que
intéressant.
Je me trompe.
Non, on s'est tous trompés à un moment donné, que ce soit dans le techno-émotionnel ou dans le moléculaire, c'est qu'on n'a pas employé les bons mots. Moi, quand je suis allé voir ce qu'était la gastronomie moléculaire, ça m'a intéressé. Pourquoi ? Parce que j'ai senti immédiatement que ça allait pas être une tendance de cuisine. Ça, c'était pour les suiveurs malhabiles. Ce qui m'a intéressé dans la gastronomie moléculaire, c'est que c'était un outil de compréhension. et que ça allait nous permettre de sortir de nos oripeaux ou de nos légendes qui servent à rien. Et ça, ça a été intéressant dans la gastronomie vulgaire. Si on a créé ce centre à l'Université d'Orsay avec Raphaël Aumont, c'est qu'on a pu faire des avancées.
Centre d'innovation.
Un centre d'innovation. Et de nous permettre d'avoir cet outil de compréhension. D'ailleurs, il y a une phrase qui est dans la gastronomie française, qui est dans le patrimoine de la gastronomie française, c'est la phrase qui dit « La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. » C'est le tome 3, c'est l'ouvrage d'Auguste Escoffier. Vous voyez qu'il avait raison avant l'heure. Donc effectivement, il faut aller chercher dans les sciences, des fois un certain nombre de choses, pour faire disparaître des oripeaux qui n'avaient aucun sens, mais redonner du sens à la cuisine.
Qu'est-ce que vous appelez les oripeaux ou les légendes?
Vous savez, de mettre du gros sel dans l'eau pour cuire des œufs durs, ça n'a jamais amélioré les œufs durs, ni le fait de pouvoir les écaler un peu mieux. C'est une légende, ça sert à rien. Donc on a fait avancer un certain nombre de connaissances et qui ont permis d'améliorer nos compétences en cuisine grâce à la gastronomie moléculaire. Mais là où j'ai pris un risque, c'est que je voulais aller vers cette innovation. Et il faut savoir que quand vous voulez être franc-tireur, c'est extrêmement violent. Quand vous voulez aller dans l'innovation, c'est extrêmement violent. Ça va être violent deux fois. D'abord, vous allez subir la critique, et c'est une critique extérieure. Bon, vous pouvez l'assumer ou pas, mais en tout cas, vous allez subir la critique.
Et, oui, vous en aviez vu d'autres quand même.
Oui, mais c'est quand même des critiques extrêmement dures, extrêmement violentes,
de plus
en
toujours.
Plus violentes, parce que d'abord c'est la non-critique, des gens qui vous laissent faire en voyant vous tromper, en disant « bon, je ne vais pas lui dire quand même, ça lui fait rien ». Donc ça, vous allez vous en apercevoir assez vite. Et puis il y a la critique de la presse, la critique des gens qui vous disent par exemple « n'allez pas chez Thierry Marx, ça ne va pas être bon
».«
J'ai eu le droit à ça, n'y allez pas, j'ai eu le droit à... vous êtes le fossoyeur de la gastronomie française, etc. etc. » Et puis la deuxième violence dont je voulais parler, c'est votre violence personnelle. Vous dites, mais s'ils avaient raison, et si j'étais médiocre, si j'étais mauvais. Donc vous avez cette double violence qui vous arrive quand vous innovez. Et dans la gastronomie moléculaire, c'est ce que j'ai vécu. Et en même temps, aujourd'hui, eh bien, on me dit, bah, c'est évident qu'il fallait faire de la cryoconcentration, c'est évident que l'encapsulage, c'est pas mal, c'est évident que la pression de cuisson, c'était quelque chose. Mais maintenant, c'est évident. Et ça, c'est quelque chose que vous vivez durement. Quand vous voulez être franc-tireur, quand vous voulez faire avancer les choses, il faut s'attendre à ce que ce soit violent.
Mais vous ne m'avez pas répondu sur la dénaturation du goût originel.
Oui, alors sur la dénaturation, c'est non, il n'y a pas de... Au contraire, on est beaucoup plus précis dans la gastronomie moléculaire parce qu'on a fait avancer le food pairing, par exemple, le mariage des accords entre le vin et l'alimentation, ou le mariage des produits entre eux. Par exemple, on sait que dans le saké, vous avez à peu près la même molécule que dans le roquefort. Quand vous faites un mélange saké roquefort, ça marche très très bien. Nos aînés faisaient ça par empirisme. Nous, maintenant, on sait le décrypter, le décoder et l'associer tout de suite. Et puis, ça nous a permis aussi d'aller aider, d'ailleurs, contre monnaie sonnante et trébuchante, l'industrie. Parce que l'industrie qui vous balance partout un certain nombre de texturants, de produits de synthèse, d'arômes de synthèse, maintenant ont besoin de notre compétence et de notre connaissance pour améliorer leurs produits. Parce qu'aujourd'hui, le client veut moins de sucre, veut moins de gras, veut plus d'arômes de synthèse, etc. etc. Mais comment on fait? Eh bien, d'avoir été un petit peu, avec les équipes du Centre français d'innovation culinaire, un petit peu franc-tireur, aujourd'hui, on en a un petit peu l'usufruit. Mais non, la gastronomie moléculaire, c'était surtout pas fait pour abîmer le produit, mais au contraire pour l'améliorer encore et mieux le comprendre, surtout mieux le comprendre. C'est pas un effet de manche, c'est de mieux comprendre. Bien souvent, quand vous parlez de la cuisine zéro déchet aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à la gastronomie moléculaire qu'on a pu lancer. Sinon, on ne savait pas qu'on pouvait utiliser la peau des carottes ou la peau des pommes pour récupérer de la pectine, récupérer des sucres intéressants et des gélifiants totalement naturels sans avoir à y ajouter d'autres gélifiants. Ça, c'est grâce à la gastronomie moléculaire et aux études. Et puis, c'est grâce à quoi aussi et je termine mon propos là-dessus, c'est grâce à l'acceptation de cerveau collectif. De réfléchir ensemble. Moi, je crois beaucoup au collectif. Moi, j'amène une compétence d'artisan, d'un apprentissage de façon empirique. Eh bien, finalement, quand j'interroge la médecine nutritionnelle, les cancérologues qui travaillent avec nous, les physico-chimistes qui travaillent avec nous, eh bien, on fait avancer des choses dans un ensemble de domaines de la gastronomie, au contraire pour valoriser le produit, valoriser les circuits courts, valoriser une idée de sol vivant, Ça aussi, ça a fait réfléchir sur l'agriculture. Quand vous prenez les travaux de quelqu'un comme Monsieur Daguin, Arnaud Daguin, qui travaille sur les sols et les sols vivants, tout ça dans ce collectif a fait avancer. Donc la gastronomie moléculaire, je l'assume, et elle est là pour servir le produit, servir la profession, et pas pour me servir uniquement, mais en tout cas, j'espère qu'elle laissera, et on voit bien aujourd'hui le succès que ça a quand on vient nous chercher sur différents domaines, que ce soit en pâtisserie ou en cuisine.
Vous disiez, Thierry Marx, tout à l'heure, justement, à propos de la cuisine moléculaire, en tous les cas, à ses débuts, que vous avez pris des coups, quand même. La critique, la violence de la critique, donc vous avez reçu un certain nombre de coups. On parlait au début de cette émission des arts martiaux que vous pratiquez, alors le judo, mais je crois que vous vous êtes mis quand même un peu au jiu-jitsu aussi, à l'aïkido.
Oui, judo, jiu-jitsu, kijitsu, ça fait quelques années maintenant.
Vous avez une formation assez complète. Est-ce que vous faites un lien aussi entre la cuisine, le fait d'être cuisinier et l'art martial, au sens peut-être, pour le dire schématiquement, est-ce que vous diriez que la cuisine c'est un sport de combat, avec tout ce que ça veut dire, avec la discipline, la rigueur, la précision, l'exigence, mais aussi savoir encaisser les coups qu'on prend?
Bien sûr.
Et du coup, est-ce que arts martiaux que vous pratiquez vous aident?
La cuisine et l'art martial, je dirais que c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est la maîtrise du geste, du feu, du temps. Quand je vous le dis pour la cuisine, maîtrise du geste, coupe juste, goût juste, gestion de votre plan de travail, votre écosystème autour de vous, la maîtrise du feu, l'énergie qui va cuire, et le temps, le bon temps pour agir, et la bonne saisonnalité. Vous prenez un art martial, que ce soit le judo, l'aïkido, le kendo, le yaito, ce que vous voulez, le jujitsu, c'est la même chose. Précision du geste, trop tôt. C'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard, et le mauvais geste ne servira à rien, si ce n'est à vous prendre un coup qui va être un mauvais coup. La maîtrise du feu, ben là c'est pas le feu, c'est votre feu à vous, c'est votre énergie, couplée à l'énergie des autres. Donc là aussi c'est la maîtrise de votre feu intérieur qui va vous permettre, en le dominant tant soit peu, ou en le régulant tant soit peu, qui va vous permettre de traverser une situation qui pourrait être empirique ou dangereuse. Et le timing pour le faire, encore une fois, si vous n'êtes pas à la bonne distance, si vous n'êtes pas dans le bon timing, il ne se passera rien. Vous voyez que c'est à peu près les mêmes approches. Et puis, je vous dis ça pour la cuisine, je vous dis ça pour l'art martial, mais est-ce que dans la vie, ce n'est pas à peu près pareil? C'est le geste, le bon geste pour saluer quelqu'un, bien souvent désamorce énormément de choses. Donc, l'histoire de cuisine, c'est l'histoire de la vie et du cycle de la vie assez, de façon assez normale. L'avantage qu'a la cuisine, c'est qu'elle crée un lien de confiance qui est imbattable. Talleyrand l'avait compris, énormément de gens l'ont compris, que la table de la paix... D'ailleurs, moi, je voulais faire une émission qui s'appellerait « La table de mon ennemi ». Comment Talleyrand avait compris ça? Comment, au congrès de Vienne, Talleyrand comprend qu'il va asseoir l'impossible autour de cette table? Il va asseoir la Prusse, il va asseoir l'Angleterre, il va asseoir la Russie autour d'une table, et les Français sont battus. On a été battus à Waterloo, mais il fait ce congrès de Vienne et il réussit par un tas de mécanismes absolument incroyables à faire composer un menu pour ce congrès et finalement à éviter le démembrement de la France. Vous voyez que la cuisine a toujours un rôle clé quelque part, et un rôle d'apaisement et de lien social.
La cuisine comme lien, on en parlera demain pour la quatrième émission, Thierry Marx. Mais juste avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une dernière question, puisque là on a parlé de la cuisine au sens général. J'aimerais m'intéresser, je sais pas, au rêveur et à l'artiste qui est en vous, en vous demandant comment naît un plat chez vous, si vous savez repérer comment ça naît un plat, de quoi?
Pour moi, ça part d'un produit, d'une déstructuration totale de ce produit, de le voir, d'essayer de le regarder avec des yeux qui seraient presque des microscopes, comment je peux le déstructurer et puis comment je peux le redessiner.
Le dessiner? Bien sûr. Dessiner.
Le dessiner pour le redestiner. C'est-à-dire que quand je regarde une tomate, par exemple, c'était ce que j'avais écrit dans Planète Marx, structure et déstructure. Je vais essayer de comprendre la structure de la tomate, d'où elle vient, quelles sont ses origines, et puis qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Avec une tomate. Et là, ça cogite, et là, ça rame, et là, ça se redessine. Donc, beaucoup de croquis, évidemment. Et puis, après, je mets en œuvre. Et on s'aperçoit, par exemple, que l'extraction d'une autre tomate, une tomate, c'est en gros 90% d'eau. Donc, l'eau va avoir, en fonction du lieu de culture de cette tomate, de ce qu'elle va avoir vécu, eh bien, il y a une eau qui est extrêmement intéressante, qui est presque du domaine. Mais il faut la récupérer à une certaine température. Et puis ensuite, dans la tomate, il y a du lycopène, qui est une espèce de laque rouge qu'on peut extraire en centrifugeant cette pulpe de tomate. Puis il y a la pulpe par elle-même qu'on peut. Et puis il y a la peau qui devient une peau qui est riche en sels minéraux. Et plutôt que d'aller chercher du sel marin, vous allez utiliser ces sels minéraux. Et comment de tous ces ingrédients, finalement, en un seul ingrédient, j'arrive à jouer avec un jeu de structure et des structures, avec jouer avec ce concept, structure et des structures, pour concevoir un seul plat. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire. Alors, je peux être inspiré par le marché, je peux être inspiré par le voyage, je peux être inspiré par énormément de choses. Et puis, je lis beaucoup de livres anciens. C'est vrai que l'Antiquité grecque m'a beaucoup apporté quand on disait, par exemple, Apicius disait « la cuisine, c'est plaisir, bien-être et santé ». Donc je replonge un petit peu dans ces livres anciens, qu'ils soient en cuisine française ou en cuisine japonaise ou chinoise même, et puis je voyage les marchés, je regarde l'ingrédient, la terre, je me suis remis à la culture du potager pour essayer de comprendre un petit peu l'ingrédient, mais sans en faire une exagération marketing, parce que je porterais un tablier de jardinier, je serais un cuisinier merveilleux. Non, mais c'est juste de comprendre les tomates que je produis sur ce toit n'ont aucun intérêt, si ce n'est de voir la saisonnalité, elles n'ont aucun intérêt. Les tomates des Baux-de-Provence sont bien plus intéressantes que ça. Mais c'est de comprendre le produit, son essence, sa genèse, et puis comment moi je vais pouvoir écrire. C'est ça que j'aime dans cette cuisine d'auteur, c'est de dire, ben voilà, il y a d'autres qui ont aussi fait de la tomate, et bien moi je la fais de cette façon-là parce que j'y ai trouvé un cheminement. Donc l'inspiration, elle est empreinte de plein de choses, et puis aussi d'un background technique, parce qu'il ne faut pas l'oublier que pour faire ça, il vous faut des bases. Il vous faut comprendre un produit, savoir comment il a été fait, comment le découper, et ça vous amène à faire des plats comme le saucisson virtuel, comme le risotto de soja, comme la tomate iceberg, comme les petites choses comme ça qui font qu'à un moment donné, on a été récompensé, et puis l'audace qui va avec. Tout ça, ça fait la naissance d'un plat. C'est un peu un cocktail comme ça, détonnant, au fur et à mesure, vous épurez.
Vous avez dit quelque part, Cyril Marx, que vous étiez très créatif quand vous aviez faim.
Oui.
C'est vrai?
Oui, beaucoup. Je me suis aperçu de ça quand, dans le Médoc, il y avait une association qui s'appelait la MCM. Et évidemment, trois fois par semaine, on s'entraînait au marathon. Et on partait très tôt le matin et on partait à jeun en général. Et je me souviens que sur cette ligne droite entre Saint-Estèphe et Pauillac, j'avais des crises de fringales. Et j'ai toujours un petit carnet dans ma poche pour prendre des notes ou faire des croquis. Et je notais vite fait une appellation. Et en même temps, je voyais plus les kilomètres défiler.
Non, c'était, il est l'heure de manger. Vous avez peut-être la faim qui commence à ouais, pointer son nez. Donc du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Peut-être que vous avez des choses à noter et des idées qui vont émerger de ce moment-là, de cette heure-là. Merci beaucoup Thierry Marx. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Caroline Brouet avec Thierry Marx. À voix nue. Réalisation Véronique Lamandour. Prise de son Amandine Grevoz. Attachée de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.